Un bonjour à ceux que j'ai pas pu voir tout à l'heure. Le thème sur lequel on va se pencher ce matin, c'est Jésus est venu pour délivrer. Alors, ça mijote depuis quelque temps, et j'ai entendu ce matin des choses qui allaient dans ce sens-là, vendredi soir à la réunion de prière. Aussi, Micheline a cité un verset que j'avais prévu de mettre. Donc, je me dis, il y a un mouvement de l'Esprit du Seigneur qui veut nous tirer vers cela, et je pense que notre Église en a besoin. Vous êtes conscient comme moi il y a des situations compliquées dans certaines familles. On ne va pas citer, je veux pas, c'est pas juste. Pour ces cas-là, hein, que j'apporte ça, ça s'applique à toutes nos vies. Même quand notre vie, on a l'impression que tout va bien, on n'a pas encore atteint la perfection. Il y a encore des libérations qui doivent être prononcées, et c'est donc vrai pour tout le monde. Dans chaque vie, le Seigneur veut encore nous faire avancer, et quand on a des choses. Quand on a des étapes à franchir, c'est parce qu'il y a encore des choses qui doivent être lâchées, des choses que le Seigneur doit encore pointer du doigt et des libérations qui doivent être encore prononcées. Et ça peut durer toute notre vie. Et ce matin, s'il y a quelque chose, un message avec lequel je voudrais qu'on reparte tous, c'est que Dieu est la solution à tous les problèmes et que notre Dieu est encore capable aujourd'hui de délivrer. Si vous repartez avec ça, vous repartez avec une grande victoire. Et puis on va voir ce matin des clés, des choses qui peuvent nous donner des indices, mais je ne prétends pas du tout être exhaustif parce que chaque situation est différente, mais notre Dieu, il est au courant de tous les problèmes. Il est au courant même des problèmes que tu ignores dans ta vie. Il va te conduire à les découvrir par des chemins très divers qui sont vraiment personnels. Mais en tout cas, notre Dieu, il veut un peuple complètement libre. Il ne veut aucun lien. Et on va commencer par une petite histoire qui peut nous ressembler. Dans Juges chapitre 6. Ah, tu l'as mis là. Alors, je sais pas si ça marche. Si, je sais pas, c'est lisible. J'ai essayé que ce soit pas trop dense, parce qu'il y a des portions de lecture qui sont assez longues. J'ai mis un fond noir, parce que mes enfants m'ont dit, quand il y a un fond trop clair, on voit pas. Donc, j'ai mis un fond noir avec des lettres blanches. Si ça va pas, ben, faudra le dire, et puis on apprendra grâce aux imperfections. Donc Juges chapitre 6, par contre vous allez aller plus vite que moi parce que vous c'est déjà projeté, moi je dois tourner mes pages. Donc Juges chapitre 6 versets 1 à 16. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Alors c'est une histoire qui peut ressembler à des moments de notre vie où on est découragé. On a vécu des choses avec le Seigneur, on a entendu des témoignages de délivrance, de guérison, et puis c'est sec. C'est le désert. Il ne se passe plus rien. On est accablé. Les problèmes se succèdent les uns aux autres et on n'en voit pas le bout. Et c'est dur. Et si on regarde Gédéon, ben il est découragé. Si on regarde le peuple d'Israël, il est découragé. Il est obligé de se cacher. Il a semé. Et ceux qui ont un jardin, vous savez, ça prend quand même du temps de semer, planter. Et l'ennemi vient et il démolit tout. C'est ce qu'il y a de pire. C'est décourageant. C'est accablant. Gédéon, lui, il voit ça tous les jours. Et il fait partie de ces familles qui essayent, tant bien que mal, de survivre. Il cache le peu qui lui reste. Il se cache dans les rochers, dans la nature, là où ils peuvent, parce que l'ennemi, il vient et il ravage tout. Il détruit tout. Et ce qu'il voit est réel. Et pourtant, Dieu voit autre chose. Quand Gédéon regarde autour de lui, il ne voit que de la désolation. Il ne voit que de l'accablement. Il ne voit que des difficultés. Il ne voit qu'un ennemi. D'ailleurs, on le retrouve dans beaucoup de passages bibliques, tel qu'il est décrit, une multitude de sauterelles. Et ce que tu vis peut-être en ce moment, tu as l'impression que c'est comme une multitude de sauterelles qui s'aboîtent sur toi. Tu n'en vois pas le bout. Tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé, tu n'en vois pas le bout, et c'est comme ça. Le peuple d'Israël, après ces 7 années, mais il s'est habitué à ses problèmes. Mais Dieu veut autre chose. Parce que Dieu ne veut pas que son peuple soit dans la servitude. Dieu ne veut pas que son peuple soit accablé. Ce n'est pas dans le projet que Dieu a formé pour son peuple. Et ça, c'est une certitude. Et on va le voir à plusieurs reprises. Gédéon, il voit sa situation, il voit la situation du peuple d'Israël et il est désolé. Pour lui, ça, c'est la vérité. La vérité, c'est qu'on est accablé. Dieu quand il vient voir, parce que c'est Dieu, hein, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel, il vient auprès de Gédéon, et qu'est-ce qu'il lui annonce? Il lui annonce ce que lui voit. Dieu voit autre chose que l'accablement que nous, nous voyons. Dieu voit autre chose, et il va lui dire, tu es un héros. Tu vas délivrer. Gédéon n'y croit pas. Et il lui dit, on peut reprendre, hein, où sont ces prodiges que nos pères, dont nos pères ont parlé, où sont ces prodiges? On a été délivrés, bah oui, mais tout ça c'est loin derrière. Aujourd'hui, regarde ce qu'on vit, ça n'a rien à voir. Et quand Jésus lui dit qu'il est un héros, Gédéon n'y croit même pas. Il lui dit, ma famille est la plus pauvre et moi-même, je suis le plus petit de ma famille. Gédéon ne voyait pas les choses avec les yeux de Dieu. Gédéon voyait les choses avec ses yeux à lui qui étaient semblables aux yeux du peuple d'Israël. C'était la désolation. Il n'arrivait pas à croire que les choses pouvaient changer. Et nous, dans notre vie, est-ce qu'on ne s'habitue pas à nos problèmes? Est-ce qu'on n'apprend pas à vivre avec? Est-ce qu'on ne se dit pas, de toute façon, c'est comme ça depuis trop longtemps? De toute façon, ça ne changera pas. Je suis comme ça depuis longtemps. Ou alors mon conjoint est comme ça depuis longtemps. Ma famille est comme ça depuis longtemps. Ça ne peut pas changer. Les problèmes sont là depuis bien trop longtemps. Ils sont trop incrustés. Je vais vivre avec comme ça jusqu'au bout. Est-ce que tu ne devrais pas entendre la voix de Dieu qui te dit « Tu es un héros. » Et tu vas te lever et tu vas gagner. Est-ce qu'on n'en devrait pas écouter la voix de Dieu? Parce que quelquefois, souvent, on considère que ce qu'on voit comme c'est réel, ben c'est la vérité. Mais Dieu voit autre chose. Dieu voit la délivrance qu'il va donner à son peuple. Mais pourquoi les choses en étaient là? Pourquoi le peuple était-il dans cet état? Ça vaut le coup de se poser la question. Au verset 1, le tout premier que vous avez vu, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et c'est cyclique, hein. J'ai pris qu'un seul passage, mais j'aurais pu en choisir plein d'autres. Régulièrement, ce refrain revient. Le peuple d'Israël fit ce qui déplaît à l'Éternel. Et comme je l'ai dit déjà beaucoup de fois, ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est donné pour notre instruction. Sommes-nous mieux, meilleurs que le peuple d'Israël? Qui pense qu'il est meilleur et qu'il fait mieux qu'eux? Qu'il lève le doigt? Je pense qu'il n'y a personne qui va oser le lever. Ben oui, parce que nous ne sommes pas meilleurs. Nous faisons aussi ce qui déplaît à l'Éternel. Quelquefois, nous le faisons consciemment, quelquefois, nous le faisons inconsciemment, et le Seigneur doit nous conduire pour qu'on apprenne à voir ce que lui voit. Et dans notre vie, s'il y a des choses qui ne décollent pas, si on trouve qu'on stagne, alors c'est qu'il y a des choses qui doivent changer. La vie avec le Seigneur, elle doit être dans une dynamique de croissance perpétuelle. Si ça stagne, c'est qu'il y a des choses à découvrir. C'est qu'il y a des choses que Dieu doit montrer du doigt. Et le peuple d'Israël faisait ce qui déplaît à l'Éternel. Et au verset 25, je pense que c'est la diapo suivante, elle est courte, voilà. Verset 25 du chapitre 6, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Et ça, en le lisant, ça m'a parlé. Est-ce que dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, il n'y a pas un pieu sacré? C'est quoi un pieu sacré? Ben c'est un genre de monument, quelque chose qu'on vénère, qu'on veut garder et qui déshonore Dieu. Quelque chose qui prend la place de Dieu. Et Gédéon était désespéré, mais dans la maison de son père, il y avait une idole. Il y avait quelque chose qui avait pris la place de Dieu. Pourtant, c'était le peuple d'Israël. Mais dans la propre maison de Gédéon, dans la maison de son père, il y avait un pieu sacré. Est-ce que tu as identifié le pieu sacré qui est encore dans ta vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas un pieu sacré qui t'empêche d'avancer? Dieu, il a demandé à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui était à son père et d'abattre le pieu sacré. Dans nos vies, nous sommes parfois bien dans la tourmente. Pour les mêmes raisons, nous n'écoutons pas toujours ce que le Seigneur veut nous dire. Nous n'écoutons pas toujours les enseignements qui sont donnés. Nous n'écoutons pas toujours notre conscience à l'intérieur. Quelquefois, on a pris conscience, ah ben oui, ça il faudrait que je m'en occupe. Et on remet, parce qu'on sait que ça va nous coûter quelque chose. On remet alors de semaine en semaine, de mois en mois. Et après, on s'étonne que notre vie stagne, parce qu'on garde un pieu sacré. Pourtant, dans notre conscience, on le sait qu'il y a ça à lâcher. Mais on y tient trop, alors on le garde. Et là, on fait comme le peuple d'Israël. Parce que c'est sûr que nous, on n'adore plus des Baals. On ne va pas monter un autel, ça ne se fait plus aujourd'hui, ça. Enfin, en tout cas, pas dans notre civilisation. Mais, on a des idoles. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent voler très facilement la place qui revient à notre Dieu. Et ça, Dieu le voit comme les Baals. À l'époque. Il voit ça comme les pieux sacrés. Est-ce qu'on a abattu le pieu sacré de notre vie? Parfois, dans notre vie, on peut être accablé parce qu'on a fait des erreurs. Quelquefois, on peut être accablé et ça arrive à notre époque où on incite à la consommation, au crédit, à tout va. Et on peut, je sais que José il a vécu ça, hein, s'il était là, ça ne le dérangerait pas d'en parler. Il était accablé de crédit. Je me souviens que Kiss s'en était beaucoup occupé pour essayer de régulariser tout ça. Mais on peut être accablé quelquefois, noyé, tellement on n'arrive plus à payer. Pourquoi? On peut dire, Seigneur, comment ça se fait, tu ne pourvois pas mes besoins? Mais à qui la faute? Est-ce que c'est la faute au Seigneur? On subit naturellement la mauvaise gestion qu'on a menée. Et on n'a rien à reprocher au Seigneur. Mais si On prend conscience qu'il faut changer. Le Seigneur peut faire quelque chose pour nous aider à nous en sortir. Ça, c'est sûr, parce que Dieu est fidèle. Mais il faut qu'on lâche cette mauvaise habitude. Je pense à des problèmes de santé. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Hein. Surtout, ne croyez pas. Hein. Mais les habitudes alimentaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas des maladies qu'on a, des problèmes de santé qui sont dus à des excès alimentaires? Je sais que moi, à une époque, j'ai eu des problèmes de cholestérol. Mais bah ouais, j'aimais bien la mayonnaise, j'aimais bien tout ce qui était... Bah ouais, si. J'ai réformé ça dans ma vie. Enfin, ma femme m'a aidé à réformer tout ça. Et puis, ça a marché. Vous savez, il y a des choses où les clés, c'est nous qui les détenons. Le Seigneur va nous montrer les choses qui ne vont pas. Pensez-vous qu'il faille tout attendre du Seigneur? On a notre rôle à jouer. On a des choses à faire. Quand le Seigneur nous révèle des choses, ben, il faut avancer. Et il ne faut pas forcément des grandes révélations divines. Quelquefois, c'est le bon sens qui va faire qu'on va changer des choses dans notre vie et ça va se mettre à beaucoup mieux fonctionner. Ça peut être des mauvaises postures qui déclenchent des problèmes de dos. Il y en a combien qui ont des problèmes de dos, qui ont des douleurs? Et quelquefois, on croit que c'est très grave et en fait, il faut modifier la façon dont on se tient. Et puis le problème se résout. Quelquefois, ce n'est pas bien compliqué, c'est du bon sens. Mais il faut savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit, a des conséquences. Quelquefois, des bonnes conséquences. Quelquefois, quand c'est des mauvais choix, des mauvaises conséquences. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit le domaine matériel, spirituel, relationnel, dans notre couple, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on choisit a des conséquences. Et dans le monde spirituel, les conséquences peuvent être très mauvaises. Et là, on peut voir que le peuple d'Israël était dans la servitude de Madian. Pourtant, il avait vécu d'énormes délivrances. On est d'accord? Il avait vécu la délivrance de l'Égypte. Les 10 plaies, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il a vu, tout ce que Dieu a fait, qu'il a vu de ses propres yeux. Comment il est enfin sorti d'Égypte? C'était prodigieux. Et pourtant, le revoilà dans la servitude. Pour nous, ce n'est pas différent. On peut avoir vécu des choses énormes avec Dieu, donner un témoignage puissant, réel, de ce que Dieu a fait dans notre vie, et quelque temps plus tard, se retrouver tête basse, dans le découragement, comme s'il ne s'était rien passé un jour. Vous n'avez jamais ressenti ces choses? Des moments où, bah oui, si, j'avais vécu ça, c'est vrai. Mais alors aujourd'hui, c'est la désolation. Je me demande même si c'est le Seigneur qui l'avait fait. Quelquefois, on est dans un état où... Et c'est triste. Ça veut dire que, même en ayant vécu des choses énormes avec Dieu, on peut se retrouver plus tard, à nouveau, dans la servitude. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait exprès, mais dans la dernière fois où j'ai prêché, c'était justement les Israéliens qui avaient vaincu les Madianites. Aujourd'hui, je ne sais pas combien d'années plus tard, je n'ai pas fait de recherche, ben ils sont vaincus par les Madianites. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a demandé de veiller et de prier. Le diable est appelé par Jésus lui-même le malin, parce qu'il est malin. La délivrance qu'on a connue un jour, le malin peut revenir subtilement pour nous remettre le grappin dessus et nous faire à nouveau courber l'échine. Parce que le malin ne veut pas qu'on soit dans la victoire. Le malin veut qu'on ait la tête basse. Le malin veut que les chrétiens soient tristes, soient accablés. Dieu veut un peuple libre. Un peuple libre qui marche dans la victoire. Vous savez, si on ne veille pas, le malin gagne du terrain. Je compare souvent les choses avec la nature, mais quand on s'est fait un beau jardin, vous imaginez un magnifique jardin. On a retiré toutes les mauvaises herbes. Il y a une belle pelouse. Il y a des belles plantations. Si on ne l'entretient pas, que va-t-il se produire? Il ne faudra pas bien longtemps pour que notre beau jardin devienne semblable à un terrain abandonné. On est d'accord? On l'a tous vécu ça dans nos jardins, pour ceux qui en ont. Si on n'entretient pas, ça retombe. Spirituellement, ce n'est pas différent. On peut avoir vécu des choses merveilleuses avec le Seigneur. Si on ne fait pas attention, si on ne veille pas continuellement, on peut se retrouver envahi par ceux dont on a été libéré ou par d'autres choses qui surviennent. Dans un couple, c'est pareil. Si on ne veille pas, si on n'entretient pas, ben tout devient terne. On se lasse. Il y a un « mais » dans les versets qu'on a lus. « Mais le peuple s'est mis à crier à l'Éternel. » « Mais le peuple s'est mis à crier à l'Éternel. » Et c'est ce qui a déclenché le passage du prophète qui a expliqué pourquoi les choses étaient ainsi. C'est ce qui a expliqué pourquoi l'ange de l'Éternel est venu visiter Gédéon. Et c'est ce qui a expliqué pourquoi Gédéon est entré en action et a libéré le peuple. Quand plus rien ne va, il y a une chose à faire. C'est pas de se dire comme ça, on est accablé. C'est de crier à l'Éternel. Parce que Dieu est la solution à tous les problèmes. Peut-être que tu te dis, non, Paul, bien, c'est pas possible. Si. Dieu est la solution à tous les problèmes. On va lire dans 2 Chroniques. Ouais, c'est là. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13-14. Je suis dans 1 Chronique, moi. Bon, je vais le lire là, ce sera plus rapide. 2 Chroniques 7, 12. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, ça c'est ce que Dieu décide quand son peuple fait ce qui déplaît à l'Éternel. Maintenant on écoute la suite. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple, s'humilie, prie et me cherche, je le guérirai. Et ça, c'est une vérité. Si on se tourne vers Dieu au milieu de nos difficultés, au milieu de nos problèmes, le Seigneur ne reste pas sourd. Il ne peut qu'agir parce qu'il l'a promis, c'est dans sa parole. Et de la même façon que si on se détourne du Seigneur, les choses ne peuvent pas continuer comme si on marchait avec lui. C'est une loi. Eh bien, de la même façon, si on se repent et qu'on revient, qu'on cherche l'Éternel, eh bien, les choses vont revenir en arrière. Il va se passer quelque chose dans ta vie que Dieu seul peut faire. Le miracle que seul Dieu peut faire va arriver. Si on crie à l'Éternel au milieu de notre désolation, le Seigneur ne peut que nous écouter et agir. Parce que l'Éternel est tout-puissant. Dans Luc, et c'est le verset que Micheline avait cité vendredi soir, dans Luc chapitre 4, verset 18, et j'aime bien ces versets. C'est Jésus au début de son ministère. Voici ce qu'il a lu, parce que cette prophétie, elle était arrivée à l'accomplissement. L'Esprit, donc Jésus au verset 17, il a reçu le rouleau du prophète Ésaïe, il l'a déroulé et il a trouvé l'endroit où il était écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Le Seigneur Jésus est venu pour délivrer. Quels que soient tes problèmes, quelle que soit ta situation, Jésus a prononcé ces paroles et on sait que ce que Jésus a dit, ça s'accomplit. Si tu le saisis de tout ton cœur, alors les choses peuvent changer. C'est miraculeux, on n'a pas d'explication, mais c'est réel. Ce que Jésus a dit va se produire. Et d'ailleurs, dans le sillage de Jésus, tout au début d'Église, dans Acte 19, 11, j'ai pris un cas vraiment extrême, parce que c'est avec l'apôtre Paul, on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Vous vous rendez compte? C'était prodigieux. On n'a pas envie de vivre ça? Vous croyez que c'est plus possible aujourd'hui? On s'habitue aux maladies qui perdurent. À force, on se dit, bah, c'est comme ça. Pourtant, Jésus guérit encore. Jésus est encore capable de guérir. Moi, je le crois. Je l'ai vécu dans ma chair. C'est vrai que je me dis, mais pourquoi ? Mes frères et mes sœurs, pourquoi il y en a encore dans la souffrance? On ne sait pas. Les situations sont très diverses. Ça ne veut pas dire qu'ils ont péché. Ne croyez pas que quand on est malade, ça veut forcément dire qu'on a péché. Chaque situation est différente. Mais Dieu est toujours le même. notre Dieu est encore capable de guérir. Est-ce qu'on le croit encore? Est-ce qu'on ne se résigne pas, comme Gédéon, comme le peuple d'Israël, devant cette désolation de l'ennemi qui ravage tout? Est-ce qu'on ne s'habitue pas, est-ce qu'on ne s'accoutume pas à tous ces problèmes, tous ces malades, alors que notre Dieu est encore capable de guérir? La guérison et la libération, ça fait partie de l'œuvre de Dieu au milieu de son peuple. Alors pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça ne se produit pas? Peut-être qu'il faut crier à l'Éternel. Le peuple d'Israël qui était dans la désolation, c'est le « mais ». Il se mit à crier à l'Éternel. Or, quelquefois, il y a des raisons. Je vais en dresser quelques-unes, mais ce n'est pas exhaustif du tout. Mais quelquefois, on croit des choses. Et c'est une mauvaise croyance. Je voudrais citer l'exemple, ça se trouve dans Actes chapitre 8. Alors là aussi, j'ai pris un cas extrême. Hein. Actes chapitre 8, verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon était un magicien auparavant, qui avait connu une délivrance. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. C'est un cas extrême. Mais là, on a quelqu'un qui a cru quelque chose qui était faux. Il a cru que c'était possible d'acheter le don d'imposer les mains et de transmettre le Saint-Esprit. Pourtant, dans son parcours, il suivait les apôtres, il avait connu cette délivrance, c'était un magicien très connu. Et dans l'apparence, il s'était converti. Mais il y avait encore dans son cœur un pieu sacré. Et il y avait une mauvaise croyance. Et cette mauvaise croyance l'a exclu pour la suite. On n'a plus jamais entendu parler de lui. C'est un cas extrême que j'ai pris volontairement. Mais vous savez, chacun dans nos vies, dans notre petitesse, on croit des choses. Moi, je l'ai déjà partagé, mais je vais le redire. Ma mère, quand j'étais enfant, elle m'avait dit, ta vie, ce sera toujours dur, ce sera toujours un combat. Et je vivais toujours dans l'accablement comme Gédéon. Et Janet, tu dois t'en souvenir, Isabelle, parce que c'était dans la période où j'étais accablé par la maladie avec cette spondylarthrite ankylosante. Et Isabelle avait parlé à Janet et elle avait dit, de toute façon, sa vie, ce sera toujours dur, sa mère lui a dit. Et merci, Janet, d'avoir été vigilante. Et Janet a dit, mais ça, c'est pas normal. C'est pas biblique. Parce que Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu ne veut pas que son peuple marche la tête basse dans l'accablement. Et moi, je le croyais. J'avais pris ça comme étant une parole du Seigneur. C'est peut-être pas ce que ma mère avait voulu dire. Mais je l'avais cru. Et pour moi, c'était le chemin de ma vie. Je croyais quelque chose de faux. Quelque chose que l'Éternel n'avait jamais dite. Et parce que je l'avais pris comme étant une parole du Seigneur, ma vie en était affectée. Je ne pouvais pas relever la tête parce que je croyais que c'était comme ça de toute façon, que ma vie serait de toute façon toujours dure. Et je remercie le Seigneur de m'avoir libéré de cette parole qui m'a emprisonné. Dieu est un Dieu qui délivre. Ce ne sont que deux exemples comme ça. Mais cherche dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que tu crois que l'Éternel n'a jamais dites? Des choses que tu crois et qui t'empêchent d'avancer avec le Seigneur. Je n'en sais rien du tout. Le Seigneur sait. Mais si tu te mets devant le Seigneur et que tu l'interroges, il peut t'aider. Moi, il a utilisé Janet. Il peut utiliser un frère, une sœur. Il peut utiliser tellement de choses différentes. Il a dit lui-même, s'il se taise, les pierres crieront. On ne sait pas le moyen que Dieu peut utiliser pour te révéler ce que tu as besoin d'entendre et qui va te donner la clé pour que ta vie décolle avec Dieu. Pour que cette délivrance que Dieu veut te donner puisse survenir. Mais je crois que Dieu peut te délivrer. Tu ne vois peut-être même pas ce qui t'empêche, mais je pense qu'on en est conscient à l'intérieur de nous. On le sait s'il y a quelque chose qui nous tient. Si on tourne en rond, déjà, c'est un indicateur. Parce que Dieu ne veut pas qu'on tourne en rond. Dieu veut qu'on avance. Et si ta vie tourne en rond, que tu es toujours confronté au même problème, alors il y a besoin d'une délivrance, c'est sûr. On peut croire aussi en la guérison, en la délivrance, mais pour les autres. Ça, c'était mon cas. J'arrivais à croire pour les autres, mais pas pour moi. Et je ne pense pas être le seul. On a plus de facilité à croire pour les autres qu'à croire pour nous-mêmes. Mais sache bien que ce que Jésus a dit pour les autres, il l'a dit pour toi aussi. La délivrance ou la guérison, ce n'est pas que pour les autres. C'est pour ta vie, à toi aussi. Parce que tu fais partie du peuple de Dieu. Tu es un enfant de Dieu qui a la même valeur que les autres. Tu ne vaux pas moins. Alors tu as droit aux mêmes choses. Ce que Dieu a fait dans la vie de l'un, il peut le faire dans la vie de l'autre aussi. Vous savez, Jésus, quand il s'est adressé à des aveugles qu'il a guéris dans Matthieu 9, 28, lorsqu'il fut arrivé, je vais vous lire ce verset, lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur a dit « Qu'il vous soit fait selon votre foi ». Alors ça ne veut pas dire, je ne veux pas culpabiliser certains qui sont dans la maladie en leur disant comme ça a pu être dit, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. C'est facile à dire à un frère ou à une sœur, ça, hein. Mais les situations sont très différentes de l'une à l'autre. Faut pas s'arrêter à ça. Mais il nous est fait selon notre foi. C'est Jésus qui l'a dit. Si tu crois pour les autres et que pour toi tu dis, bah oui, mais moi non, moi je vais vivre comme ça. Non. Non. Dieu est venu aussi pour toi. Dieu nous aime chacun individuellement. Mais quelquefois, notre vie peut ne pas aussi décoller parce que on est dans la désobéissance ou dans le péché. Alors, il y a des péchés qui se voient, il y a des péchés qui sont beaucoup plus insignifiants, beaucoup plus insidieux. Et qu'on ne veut pas lâcher. J'ai déjà parlé d'un chien, un berger allemand dont je m'étais occupé quand j'étais au service militaire. C'était des amis chrétiens qui étaient partis au Kenya et ils m'avaient confié leur chien. Et je faisais de la course à pied avec ce chien. Elle s'appelait Laila. Ah bon, Anne, elle est au courant, Anne et Anto, ils savent. En fait, Laila, elle aimait bien quand on se promenait dans la forêt, prendre un morceau de bois et puis le garder dans sa gueule. Seulement, à l'époque, je courais vite et j'étais plus entraîné que Laila. Et elle avait du mal à me suivre. Et elle tenait tellement bien à ce morceau de bois. Elle l'avait dans la gueule et pour respirer, ça la gênait considérablement. Et moi, je courais d'un bon pas et j'avais pas envie de ralentir. Et vous devinez la suite. C'est quand elle voyait qu'elle n'en pouvait plus, elle lâchait son morceau de bois pour pouvoir respirer à plein poumon. Et dans notre vie avec Dieu, il y a des choses qu'on doit lâcher. Si on veut pouvoir avancer, suivre Dieu, il faut lâcher. Et si Dieu nous demande de lâcher, qu'on ne lâche pas, ça s'appelle de la désobéissance. Ça n'a pas d'autre nom. Alors, tout le temps qu'on ne veut pas obéir, tout le temps qu'on ne veut pas lâcher notre bout de bois, ben on va stagner. On ne va plus avancer. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles notre vie peut tourner en rond. Tout le temps que tu n'as pas lâché, tu vas tourner en rond. On va lire un verset dans Ésaïe 59, 1. C'est bien, super, ça suit. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ça, c'était ce que Ésaïe a dit au peuple à l'époque. Est-ce que vous croyez que sous la grâce, ce n'est plus d'actualité? Mais si, 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 c'est toujours d'actualité. Ce sont toujours nos péchés, nos désobéissances qui nous cachent la face du Seigneur. Si tu n'arrives pas à le trouver, si tu n'arrives pas à trouver le Seigneur, il y a peut-être des choses à réformer dans ta vie. Parfois, ça peut être un manque de remise en question. On ne va pas aller le chercher, mais dans 1 Corinthiens 11, 31, c'était à propos de la Sainte Cène. Je ne veux pas qu'on pense que c'est forcément ça qui s'applique ici, hein. Mais il y a un verset. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu nous demande de nous examiner nous-mêmes. Et il y a bien des choses que si nous décidions nous-mêmes de nous examiner et de changer, Dieu n'aurait pas besoin de nous châtier. Parce que ça arrive que Dieu châtie. C'est un père, et un père, ça châtie ses enfants. Alors c'est vrai que Dieu n'est pas un père fouettard comme on peut l'imaginer, mais si, il châtie ses enfants. Il y a des difficultés, il y a des choses qu'on traverse qui sont dues à notre désobéissance et Dieu nous châtie au moyen de ces épreuves pour qu'on comprenne enfin qu'il faut lâcher. Parfois, il y a des choses qu'on traverse qui sont dues à des conséquences familiales. Dans des familles, il y a la violence conjugale qui se perpétue de génération en génération. Il y a l'alcool qui peut aussi se perpétuer de génération en génération. On peut se dire, mais pourquoi c'est comme ça? Ben ça aussi, c'est une loi. Dans Exode 34, verset 5, Dieu nous donne des paroles. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui. Lui, c'est Moïse. J'ai extrait, hein, c'est le moment où Moïse se trouve avec les deux tables prêtes à être écrites à nouveau par le doigt de Dieu. Les nouvelles tables, parce que Moïse les avait détruites, les premières au pied de la montagne. Et il retourne dans la présence de Dieu et Dieu se présente de cette façon. Il s'écria, l'Éternel, l'Éternel Dieu miséricordieux, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Jusque-là, c'est génial. Mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Quelquefois, on se dit, mais pourquoi ça se perpétue comme ça? C'est une explication. Seulement, Jésus est venu pour accomplir la loi. On est d'accord? Et cette punition, s'il y a une repentance, Jésus a pris la punition sur lui. Quand il était à la croix, Jésus a subi la punition du péché. Ce verset, on peut le constater dans des familles, mais s'il y a une repentance, Jésus a porté cette punition. Et ça, c'est merveilleux. Si dans ta vie, tu sais que dans ta famille, il y avait ces liens qui ont sauté, qui ont parcouru les générations. Dis-toi bien une chose, tu n'es pas dans une fatalité. Jésus a porté cette punition que Dieu a infligée. Jésus est venu pour libérer. J'ai énoncé plusieurs choses, mais ce n'est pas exhaustif. Il y en a beaucoup de raisons qui peuvent nous amener à tourner en rond. Et comme chaque cas est particulier, chaque vie est unique, il y a une attitude à avoir. Si tu ne trouves pas, eh bien il faut chercher auprès du Seigneur. Jésus est venu prononcer des paroles libératrices. Et dans Matthieu 7, au verset 7, c'est Jésus qui a dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quel que soit ce que tu traverses, Jésus a une parole de libération pour ta vie. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Est-ce que on va repartir ce matin avec cette conviction que quels que soient tes problèmes, quel que soit le cercle vicieux dans lequel ta vie se trouve, Jésus a une solution. Et il veut t'en sortir. C'est impossible que si tu prends la main de Dieu, tu restes encore dans ces problèmes. C'est impossible parce que Dieu est tout-puissant et il est plus grand que ce que tu traverses. On va dire Amen. Et je vais m'arrêter là, j'avais encore quelques... Mais ça suffit. Notre Dieu est celui qui est venu pour délivrer et il ne veut pas que son peuple soit dans l'abattement. Il ne veut pas que son peuple reste la tête courbée dans les difficultés. Il veut qu'on avance et il veut nous délivrer. Amen. Seigneur, merci parce que tu es venu pour délivrer. Et c'est réel. Le diable veut nous faire croire qu'on restera avec nos problèmes tout le temps. Mais c'est faux. Il est menteur. Toi, tu es venu avec des paroles de libération. Et ce matin, nous confessons par Jésus-Christ, que nous sommes un peuple libre, un peuple que tu as libéré, un peuple que tu guéris. Tu guéris nos maux, notre Dieu, parce que tu es le Tout-Puissant. Que nos vies t'honorent, Seigneur, qu'il ne reste rien en nous qui nous tienne captifs. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.